Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir. Nous sommes au lundi 26 août 2024 et il sonne 11h sur votre radio. Et vous comprenez sans doute que nous commençons l'émission Club de la Presse ainsi. Et c'est le premier numéro pour le compte de cette semaine. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Kokou, Victor Betomega est à la mise en onde. Jérôme Dakoucha sur la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou au micro. Comme toujours, vous nous écoutez alors en direct partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nehor, Radio La Paix à Takpamé, Central FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Koktouazi à Dapaon. Et là, vous comprenez que nous couvrons tout le Togo avec cette émission Club de la Presse. Vous avez aussi le privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales et aussi nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Les Bénins. Nous sommes sortis alors d'un week-end bien riche en informations, surtout politiques. Après l'installation du gouvernement, l'exécutif était devant les députés pour la présentation de la politique générale. C'était le vendredi dernier. Il y a eu également la nomination des gouverneurs dans les 5 régions du Togo, sans oublier le parti Le Net qui nous a présenté un autre épisode alors de la crise au sein du parti, bien sûr, en nous offrant 2 congrès avec 2 présidents qui dirigent désormais le parti. Nous allons analyser tout cela et décrire bien sûr tout cela avec nos confrères journalistes en studio. Avec moi, il y a Elie Goka qui est là. Elie, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de Canal FM.
Bien passé le week-end.
On rend grâce à Dieu.
Dieu merci. Uriel Enyang, bonjour.
Pascal, bonjour. Bonjour à tous les Togolais. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent.
J'espère que vous avez bien passé le week-end.
Je remercie le Seigneur.
Gosson Ketomania, bonjour.
Pascal, bonjour.
J'espère que tu vas bien.
Moi, oui.
D'accord.
Mais pas vraiment nos frères conducteurs de motos électriques.
Ah bon, qu'est-ce qui se passe encore? Entre-temps, je sais que nous avons débattu de leur situation ici en studio. Ça n'a pas évolué, la situation?
Une chose est de débattre de la situation, mais une autre est de toucher des réalités qui offusquent. Quand, par exemple... Je ne vous l'apprends pas sur le versement quotidien qui est de 3200. Et je viens d'apprendre qu'en fait, c'est 2000 pour la batterie et 1000 francs pour assurer les pièces de rechange. Quand j'ai vu, j'ai jeté un coup d'œil sur le coût des pièces de rechange. Pascal, tu as une moto, j'en ai. Tu seras ébahi. Par exemple, un rétroviseur. Comment l'unité peut coûter plus de 7000 francs? Le rétroviseur que nous payons à 1500, 1000 francs. Pour cette moto, c'est 7000 unités. La paire fait presque 15000. Quand on prend par exemple l'assurance, il y en a qui conduisent cette moto plus d'un an, mais apparemment, les 200 francs qu'on prenait chaque jour pour renouveler l'assurance, depuis la première assurance, la société n'a plus procédé au renouvellement de l'assurance des motos. Ça veut dire que quoi? Si par exemple, il y a un de nos frères là qui fait un accident, ça veut dire que la moto n'est plus assurée. Et pourtant, on leur prélève chaque jour de l'argent. C'est pour finalement réaliser que cette société ne triche pas seulement les citoyens. Elle triche l'État togolais. Parce que normalement, on doit renouveler l'assurance et l'argent doit être versé dans les caisses du trésor public. Mais si après la première assurance, là, on ne procède plus au renouvellement tout en continuant de prélever, je ne sais pas si le terme vol est approprié pour cette pratique. Mais ce que je viens d'apprendre tout à l'heure, il serait intéressant que les confrères intéressés s'intéressent à cette situation pour que les lignes bougent. Ce n'est pas du tout agréable.
Ce n'est pas du tout agréable, Elie. C'est vrai que nous avons reçu entre-temps le responsable ou du moins sur le porte-parole, j'allais dire, de ces conducteurs de moto dans ce studio. Ils ont évoqué un certain nombre alors de difficultés qu'ils subissent, même d'ailleurs auprès de cette société alors de moto électrique. Et finalement, c'est des situations quand même que nos populations vivent, ou du moins nos compatriotes vivent.
Oui, c'est vrai, par rapport au gain des Togolais par rapport à leur bourse, il faut comprendre que avant d'engager un certain nombre de projets qui notamment est lié à ces motos électriques, il faut également analyser suffisamment les éléments complémentaires de ce projet, notamment la maintenance. Et quand la maintenance de ces motos va être d'un coût si élevé, compromettant ainsi même cet engagement qu'ils ont pris quand ils prenaient les motos, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Il faut que les décideurs à la tête de cette société puissent évaluer un peu quelle est la situation actuelle depuis qu'ils ont intégré l'usage de ces motos électriques sur le marché togolais. Quelles sont les observations faites, interroger ceux qui en font visage aujourd'hui, recueillir leurs propositions et analyser humainement, je dis humainement, leur situation et y trouver des solutions. C'est important. Au cas contraire, ces usagers de ces motos électriques, ils jetteraient de l'argent de par la fenêtre.
D'accord. Oui, mais Uriel, c'est vrai que c'est une situation que ceux qui sont les intéressés, même d'ailleurs, décrit depuis un temps. Nous les avons reçus aussi dans ce studio. Il y a même la société également, les responsables de la société nous ont contactés pour venir faire un droit de réponse. Nous leur avons offri nos plateaux alors pour cela, mais n'avons pas encore vu alors ces responsables alors ici. Alors, finalement, c'est des gens qui crient, hein, par rapport à, je vais bien parler alors de ces conducteurs alors de motos électriques qui crient pour leurs conditions, et finalement personne ne les écoute, hein?
Non, bon, est-ce qu'on va dire personne ne les écoute? Je pense que Godson maîtrise très bien le sujet. En étant en route pour Canal FM, j'ai constaté cet attroupement-là. Je pense que le siège est juste situé en face du ministère de la fonction publique, juste après le service des passeports, juste en face aussi de la Lonato. Donc c'est bien situé là-bas. Ils ont obstrué carrément la route. Je me posais la question, mais pour être prudent au volant, j'ai dû me concentrer pour passer. Ça prouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais sur le sujet, il faut quand même dire que même si nous avons des problèmes d'emploi, même si nous souffrons de beaucoup de choses, moi je fais beaucoup attention. J'ai besoin de beaucoup de choses, mais lorsqu'une opportunité apparaît devant moi, je prends le temps de l'étudier. Lorsque cette affaire de moto électrique est arrivée au Togo, les gens ont juste sauté là-dessus. Les gens même ont volé les motos, les anciennes motos de leurs oncles pour aller changer. Parce qu'on a dit moto électrique, les gens même ont crié « Oh, fini l'achat de carburant qui est... carburant, il n'y a pas carburant, nous on va rouler nos motos. » Rappelez-vous lorsque, entre temps, tout dernièrement, il y avait pénurie de carburant ou bien un dysfonctionnement technique. Et ce sont ceux-là qui se sont moqués de nous. Allez, continuez par rouler vos voitures, vos motos avec carburant. On a tout entendu. Nous qui faisons la promotion des droits d'acquise sur les produits pétroliers, parce qu'il y a une partie qui va dans l'entretien routier, on se posait la question, moi, mais si les motos électriques, les voitures électriques prennent le pas, finalement, il n'y aurait pas de fonds dédiés à l'entretien routier. Toutes ces questions, moi, je me les posais, mais je savais quand même qu'avec le temps, il y aura quelque chose qui va arriver. Mais on ne va pas se réjouir quand même. Il faudrait que le promoteur de la société des motos électriques, si vraiment il n'y a pas un problème, depuis que ces gens-là ont commencé par crier, je pense que la solution serait trouvée. Lorsqu'un problème surgit, les gens viennent sur les antennes parler. Des mois durant, il n'y a pas de solution, il faut savoir qu'il y a quelque chose. Qui est le promoteur des motos électriques? Qui en est le promoteur? Ailleurs, ça a commencé, mais c'est le temps même qui a pris des dispositions pour mettre fin. Non, nous ne voulons pas des motos électriques ici parce que ça nous... Mais qui en est le promoteur? Aujourd'hui, tout ce que Godson vient d'expliquer, ça veut dire que c'est un problème sérieux. Il y a escroquerie dedans, il y a du faux dedans, il y a tout dedans. Mais si le service continue par fonctionner, ça veut dire qu'il y a un souci. Il y a vraiment un souci. Maintenant, si cela ne tenait qu'à moi de faire des propositions, je l'avais fait devant les deux responsables qui étaient là. Je leur avais dit, s'ils connaissent bien leur ministre des titres, Je pense quand même, puisque le jour-là, il faisait appel au président de la République, j'ai dit, mais le monsieur, il est surchargé. Si pour des motos aussi, on doit aller appeler Fornia Singwe pour venir vous résoudre les problèmes, pour quelle raison il a délégué ces gens-là qu'on appelle ministres? Vous avez un ministre des tutelles, adressez-lui poliment un courrier, expliquez votre situation. Vous verrez que le ministre ne va pas rester oreille sourde. Il va réagir, il va convoquer les deux parties pour les écouter et il va former une commission pour suivre et pour trouver des solutions. Et il va intimer l'ordre de venir lui rendre compte régulièrement. Je pense que c'est comme ça qu'on peut résoudre un problème. Mais dans cette situation où on dit on ne veut pas attroupement parce qu'on est en période d'insécurité et tout, mais tout ce qu'ils sont en train de faire là-bas, ne soyez pas surpris que jusqu'à la fin de cette émission, c'est les gaz lacrymogènes qui vont pleuvoir là-bas, c'est ce que nous ne souhaitons pas.
Et justement, c'est ce que nous
que l'autorité prenne des dispositions pour qu'ils puissent s'entendre.
C'est très important que l'autorité vraiment prenne des dispositions, j'allais dire, pour qu'ils puissent alors s'entendre, tel que tu l'as dit, Uriel. Alors, nous sommes rejoints par Jacques Dakouti. Jacques, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs, auditeurs de Canal FM, toutes mes excuses. Qui est tombé dans un embouteillage au niveau d'Atikoumé.
Parce que je sais que ce n'est pas dans l'habitude alors du président.
Oui, justement, au niveau d'Atikoumé, vraiment, il faudrait que nos autorités revoient ce feu rouge-là qui nous crée.
Décidément, les autorités sont interpellées partout.
Vraiment, je me rappelle au cours d'une rencontre à l'hôtel Sarakawa, Uriel y était, nous étions ensemble au cours de cette rencontre, on avait évoqué effectivement ce problème. Le ministre Akia Afo, qui est maintenant gouverneur chez moi,
avait... Dans les savannes.
Dans les savannes. Oui. qui avait permis de régler le problème avec Madame Kassa Traoré. Bon, ils sont tous partis, ils n'ont pas pu régler le problème. Je crois que c'est maintenant le ministre
Saniyaya,
voilà, qui est travaux publics, qui pourra certainement nous régler vraiment ce problème. Au niveau du feu d'Atikoumé, vraiment, il y a un problème. Pour ceux qui empruntent cette voie-là, c'est vraiment terrible. S'il y a un problème dans ce quartier pour évacuer quelqu'un vers l'hôpital, c'est vraiment compliqué. Très, très compliqué. Et puis, vous voyez que le carrefour n'a pas été bien fait. Dès que vous démarrez du côté Fussec pour aller vers la ville, l'autre côté aussi démarre en même temps. Donc, vraiment, ce feu rouge au niveau du carrefour d'Atikoumé a été très, très, très mal fait. Il faudrait que le ministre Saniyaya puisse revoir cet aspect-là et essayer même de refaire ce carrefour. Le carrefour est tellement large, mais quand vous voulez passer, la route est un peu étroite à ce niveau.
D'accord. Cher confrère, je sais que les gouvernants ou les autorités sont interpellés dans beaucoup d'aspects, dans beaucoup de domaines, parce que il y a les besoins qui se font sentir dans beaucoup de domaines et c'est quand même de plein droit que les populations ou les concitoyens demandent quand même que des problèmes soient réglés dans tel ou tel domaine et nous prions justement à ce que ces problèmes soient réglés. C'est pour cela même d'ailleurs que le gouvernement est mise en place. Parlons justement alors de ce nouveau gouvernement de transition. Et Gonson, ce matin, vous titrez à la une de votre journal « Bienvenue dans la République dite 5e, des dépenses somptuaires et inutiles en perspective ». Et vous écrivez aussi à la suite de cela « Profession ministre de la République, Gilbert Bahara, 17 ans, Vitoua Adobe, 16 ans, Sina Lawson, 14 ans ». Et ces trois points de suspension, ça veut dire qu'il y a d'autres également personnalités que vous voulez citer. Alors, quand on prend aujourd'hui ce nouveau gouvernement alors de transition qui a été mis en place depuis le mardi dernier, alors finalement, quelle analyse alors vous faites alors de ce nouveau gouvernement?
Bien, d'abord, de par le nombre. Tout à l'heure, Jacques parlait du carrefour de Atikoumé. Initialement, si j'ai bonne mémoire, il était prévu d'installer du viaduc où le train doit passer en bas, les véhicules en haut.
Tout à fait.
Afin qu'il n'y ait pas de feu rouge là-bas. Un viaduc, ça facilite la circulation, ça fluidifie la circulation. Mais au final, on a vu ce qui nous a été servi. Si mes souvenirs sont toujours bons, je crois qu'on avait argué le manque de fonds. Mais justement, Pascal, dans un pays qui a tout fait, qui a sprinté pour être élu dans l'initiative des pays pauvres très endettés, qui se permet en période de transition de nommer, d'avoir 35 ministres pour une population de 8 millions d'âmes.
C'est trop.
Ça, avant les ministres, les députés qui étaient au nombre de 91, on a porté le nombre à 113. Après ces députés, on a initié l'élection des conseillers régionaux, 179. Et après, il en sera issu les sénateurs. Quand même, si vous prenez de la calculatrice pour faire cette différence et établir ce qui peut être épargné dans ce domaine, rien que chaque fin de mois, le pays pourrait faire encore un pas en matière de réflexion des routes et des pistes. Mais au lieu de cela, je ne sais pas si cette phrase-là pourra m'écouter. Notre président a plutôt choisi de récompenser 35 ministres pour ce petit Togo. Les gens, on ne va pas verser dans des comparaisons, mais rien que le nombre, ça heurte. Maintenant là, on a essayé de faire un briefing pour voir que il y a certains dont on dirait qu'ils ont pour profession d'être ministre. 17 ans, Pascal, ça fait plus de 3 mandats. 16 ans, ça dépasse 3 mandats. 14 ans, ça titille 3 mandats. Mais veut-on faire croire que les jeunes Togolais n'ont pas de jugeote pour assumer ce que certains ont déjà assumé pendant tant d'années et qu'il faille les reconduire? Ce n'est pas bien.
Mais est-ce que ce n'est pas compte tenu alors de leurs compétences? Et là, comme on le dit, on ne change pas l'équipe qui gagne.
Compétences. Parce que tu penses que moi, j'ai été à l'école de nuit. Nous avons tous fait l'école de jour. Qu'on nous mette à l'épreuve. Soyons sérieux, mettons cette affaire-là de côté. Si c'était une question de compétences, rien que par esprit d'humilité intellectuelle, on devrait mettre en place depuis la haute cour de justice pour contrôler les finances du pays. Mais pourquoi on ne l'a pas fait? Si vraiment il y a question de compétences.
D'accord. Élie, est-ce que vous trouvez aussi que ce gouvernement loue le nombre est pléthorique?
Tout d'abord, il s'agit de la vision que poursuit le chef de l'État en mettant en place un gouvernement de 35 ministres. Tout le monde, ou la plupart des observateurs de la scène de l'actualité togolaise ont dit à 35 pour un gouvernement de transition pas politique mais constitutionnelle. Ah, peut-être qu'ils seront reconduits tous quand le gouvernement de la 5e République lui-même sera mis en place, on ne sait pas. Mais autre chose que je voudrais souligner, c'est que en temps normal, un gouvernement avec ce nombre, cet effectif, devrait plutôt aider à réaliser les projets au menu de l'agenda du gouvernement. Parce que on estime que c'est une forme décentralisée du gouvernement qu'on met en place qui permet, qui spécifie le travail de chaque ministre, qui élargit le travail afin qu'il y ait plus une certaine concentration. Et là, souvent, les résultats ne satisfont pas les citoyens, et c'est ce qui amène à exprimer une certaine disons une certaine critique à l'égard de l'effectif du gouvernement. Normalement, l'effectif du gouvernement devait permettre à ce que tous les ministres soient sur le terrain, qu'il y ait un travail qui suscite de l'admiration, un travail qui émeut les concitoyens. Ça ne devait pas être une critique, mais cette critique vient du fait que le gouvernement a un effectif important, mais le travail qui doit susciter de l'admiration, qui doit émouvoir les citoyens, on ne sent pas ce travail, surtout un travail de proximité au niveau de la base.
Et ce n'est qu'au début, hein, par rapport même à ce gouvernement de transition.
On voudrait bien le voir que les voir au travail, faire un travail de proximité à la base, bien que nous ayons des mairies, une décentralisation territoriale, on aimerait quand même qu'il y ait beaucoup plus de travail avec cet effectif,
d'accord,
malgré les critiques.
Mmh. Uriel, c'est vrai que le gouvernement, ou la chef du gouvernement même d'ailleurs, hein, était avec son équipe devant le Parlement, c'était le vendredi dernier, et là, la politique générale alors du gouvernement a été présentée, et on comprend que mais il y a des choses qui ont été faites, et maintenant, tel que Madame Dogbé le disait, c'est qu'on va continuer dans le même élan. Donc ça veut dire que, alors, pour ce qui concerne surtout les aspirations du peuple, on va tenir compte alors de cela.
Vous savez, la dernière fois, lorsqu'on débattait du sujet lié au retard, selon certains, autour de ce plateau dans la formation du gouvernement, le jour-là, Jacques n'y était pas. Il y a Elie aussi qui n'était pas. On était trois avec Didier. Vous savez, je vous disais que certainement, qu'il se pourrait que ceux qui sont en charge de la formation de cette nouvelle équipe transitoire seraient en train de chercher les bonnes personnes et les mettre au niveau des bonnes places. C'était moi mon intention. Et finalement, moins de deux semaines, on a ce gouvernement. Aujourd'hui, c'est 35 membres qui composent l'actuel gouvernement. Et comme Elie l'a expliqué, en réalité, ce nombre devrait permettre de mieux travailler. Bon, il y a une chose, c'est le nombre. Une autre, c'est leur salaire. Une troisième, peut-être, qui se rattache à la deuxième, c'est toutes les charges liées à chaque ministère. Puisqu'au-delà du nombre qu'on a aujourd'hui, il y a des ministères qui ont disparu, qui ont été rattachés à d'autres. Vous prenez par exemple le ministère du tourisme qui se retrouve au niveau des sports. Vous prenez le ministère de la base qui se retrouve au niveau de l'inclusion financière. Vous prenez hydraulique villageoise qui rejoint l'agriculture. Donc, ce sont des exemples. Il y en a beaucoup. Vous prenez travaux publics à qui on ajoute encore infrastructure. Ce n'était pas cela. Bon, certains ont été créés. Moi, je me dis que je ne vais pas sous-estimer l'intelligence de ceux qui ont pris le temps pour former ce gouvernement. Je me dis que c'est pour la bonne cause. Quoi qu'on dise, même Madame le Premier ministre l'a expliqué, qu'ils ont deux missions. C'est contribuer à mettre en place les institutions de la 5e République et continuer la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Bon, sans s'écarter des besoins de base des populations. Voilà un peu, moi je pense quand même que 35 ministres, c'est le nombre que nous voyons. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Celui qui a composé aurait attribué des cahiers, un cahier de charge à chacun. Et un cahier de charge, comme ils ont l'habitude de le faire, à travers les séminaires, ils s'auto-évaluent. Bon, évaluation en présence des experts nationaux comme internationaux. Et ils sortent, enfin, un communiqué pour nous signifier que la mise en œuvre de tel est à tel pourcentage et qu'on doit aller sur l'accélérateur pour pouvoir réussir le plan que nous-mêmes on s'est donné. Voilà, le gouvernement, bon, il y a des gens que je ne connaissais pas du tout, et ceux dont on parle, qu'ils ont fait 17 ans, ils ont fait 16 ans, ils ont fait 14 ans, moi, il m'est très difficile de me prononcer là-dessus, parce qu'il y a quelqu'un qui forme le gouvernement, il y a quelqu'un qui propose, il y a quelqu'un qui valide. Est-ce que c'est pour rien qu'il maintient ces gens? Bon, je n'ai pas le profil de ceux-là qui ont fait 17 ans, qui ont fait 14 ans, ceux-là qui font un an, et on a connu des ministres au niveau de l'enseignement supérieur. Rappelez-moi son nom, le ministre Akpagana. Il a fait à peine un an. On l'a laissé. Il y en a dans d'autres ministères aussi qu'on a laissé à moins d'un an. Donc, ça veut dire que ça dépend. Bon, pour connaître c'est la réalité au fond, pour connaître ce qui sert, ce qui ne sert pas, je pense qu'il va falloir interroger le tout premier responsable de ce pays qui trouve que tel profil me sied, il peut continuer par travailler avec moi. Je ne dis pas que quelqu'un autour de cette table ne peut pas être ministre, je ne suis pas en train de le dire. Non, tout le monde ici peut être ministre, nous pouvons tous être ministres, il n'y a pas de souci. L'essentiel, qu'on t'apporte ton cahier de charges, tu as un bagage intellectuel suffisant, c'est pourquoi nous avons fréquenté. On ne se retrouve pas ici par hasard. Non. Mais pour l'instant, comme le premier responsable a choisi des gens pour travailler avec lui, nous ne pouvons que les soutenir. C'est ce que nous sommes en train de faire. Tout ce que nous disons, ils écoutent. Et ne pas ce que nous sommes en train. C'est pourquoi lorsqu'il y a des dérapages, tu te retrouves quelque part pour qu'on te redresse ou bien pour que vous échangez, pour que tu convainques. Voilà, etc. Quoi.
D'accord. Et Jacques, est-ce qu'on n'a pas vraiment l'impression que 35, c'est beaucoup? Parce que, alors, quand prend. Il y a certains ministères où on a encore d'autres ministres, alors qui sont délégués hein, auprès de ces ministres. Et aussi, on retrouve à la présidence des ministres qui n'ont même pas de portefeuille.
Bon, vous savez, je voulais d'abord rebondir sur l'aspect de mon confrère Godson. Qui parlait de 17 ans pour certains et autres. Je ne sais pas si, depuis que le président Fornia Singbe a pris les rênes du pays, je ne sais pas si vous avez fait une analyse sur les mutations, les changements de gouvernement et autres. Vous avez remarqué que c'est souvent pénible pour le président de la République de faire le remaniement. On vote. On attend souvent 3 mois, 4 mois avant de renouveler les ministres. J'ai remarqué que c'est une question souvent difficile pour le président de la République de se séparer de ses collaborateurs. C'est ce qui, vous pouvez faire l'analyse et vous verrez. La plupart des élections, quand on fait l'élection pour nommer des ministres, ça prend vraiment un temps fou. Et souvent, c'est parce que nous, on claironne souvent sur les médias, on écrit, et finalement, un matin, on décide, bon, écoutez, bon, on va essayer de changer. Sinon, si c'était M. Fornia Singbe seul, je vous dis que depuis 2005...
On aura le même gouvernement.
On aura le même gouvernement. Les gens ne vont pas changer. Mais la preuve, vous avez vu qu'il est souvent difficile au président de se séparer avec certains. C'est-à-dire qu'il travaille toujours avec les mêmes personnes, ce qui veut dire que il est à l'aise dans sa politique avec ces personnes.
Oh, il y a d'autres compétences, Jacques.
Non, attendez, écoutez, il y a vraiment la compétence, il y a également la confiance. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous prenez même Jésus avec ses 12 disciples. Mais écoutez, ils travaillent ensemble, mais Jésus était souvent en intimité avec certains pour certaines choses. Donc, dans la vie, c'est ça, au fait. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'il n'y a pas de compétents, il y a des compétents. Mais au sein, effectivement, de la maison, il y a ce qu'on appelle la maison également. Et pour ceux qui ont fait la relation d'aide, on vous parlera du secret, c'est-à-dire qu'un jardin secret pour chacun. C'est-à-dire que M. Fornia Singbe fonctionne comme ça, avec un secret, avec certains. Donc, il lui est souvent difficile de se séparer de ces personnes-là. Donc, vous allez voir que tant que durera effectivement la gestion du pays entre les mains du président de la République, il ne pourra pas se séparer de certains. Ça, il faut, c'est comme ça. Et quand vous prenez la plupart des républiques, des pays, c'est toujours comme ça également. Il y a des gens avec qui on travaille, on n'aime pas se séparer de ces personnes-là. Vous voyez? Donc, parlant de 35 minutes dont vous venez d'évoquer tout à l'heure, certains vous diront effectivement que le nombre est un peu pléthorique. Comme on nous parle d'un moment de transition, et certains vous parleraient peut-être de 15 ministères, et puis bon, on avance. Parce que c'est une affaire de 6 mois. Ou bien, ça m'atteint plus de 10 mois. Vous voyez?
Donc, moins de 10 mois.
Moins de 10 mois. Mais là où moi j'ai trouvé un peu des choses à reprocher par rapport au placement de certains ministres, vous allez voir que certains se sont retrouvés à des postes par accident. Oui, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas à l'aise à ce poste-là. Vous prenez quelqu'un comme Hunake, un professeur d'université, qui va se retrouver à gérer l'huile et les tomates et le riz. Vous voyez que c'est un peu compliqué, c'est-à-dire qu'il est au niveau du commerce. C'est-à-dire que qu'est-ce que ce professeur-là va faire là-bas? Je ne sais pas si vous comprenez.
Non, je comprends.
Voilà, ça lui serait compliqué. C'est-à-dire que le monsieur, il sera à l'aise lorsqu'il sera, par exemple, au niveau de peut-être les écoles, à gérer peut-être, par exemple, les étudiants. Il sera à l'aise à ce niveau. Mais on projette vers le commerce. C'est vrai. Uriel disait tout à l'heure qu'on peut vous donner une feuille de route et vous allez exécuter. C'est vrai. Peut-être lui donner effectivement une feuille de route, il pourra suivre, mais il ne sera pas effectivement à l'aise à ce niveau. Vous prenez quelqu'un comme Kanka Malik
Natchaba,
qu'on a amené au niveau de l'enseignement supérieur. Nous tous, nous connaissons un peu M. Kanka Malik. C'est un monsieur qui est vraiment libre quand il est avec les jeunes. Je ne sais pas si vous comprenez. quelqu'un comme ça, si on lui mettait par exemple au niveau de l'inclusion financière et du développement à la base chargé des jeunes, je vous dis que Kaka Malick sera de pouvoir exercer là-bas. Mais en le mettant par exemple au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, je ne dis pas qu'il ne peut pas le faire, mais il ne sera pas tellement à l'aise. Vous prenez quelqu'une comme Madame Yawa, c'est Kuigan, non?
Oui, oui, non, Madame Tchégan.
Tchégan, autant pour moi.
Voilà. C'est Yawa Tchégan.
Voilà, Madame Tchégan.
Oui. Du commerce.
Non, elle est maintenant.
Non, l'urbanisme. De l'urbanisme.
Oui, elle a remplacé son prédécesseur.
Tout à fait. Voilà. Elle, on l'amène, par exemple, au niveau de l'urbanisme. Moi, je serais, par exemple, à la place, peut-être, de Fort Nyasingbé. Je ne vais pas amener Madame Tchégan au niveau de l'urbanisme. Je pourrais la laisser peut-être au niveau des affaires sociales. Parce que c'est quelqu'un qui a géré quand même le perçoit de l'Assemblée nationale, qui connaît un peu les problèmes de base de nos concitoyens et de nos concitoyennes. Elle pourra gérer ce poste-là. Et autre aspect...
Mais Jacques, sur ce point, attends, on prend Mme Tchégan qui quitte l'Assemblée nationale et elle n'est même pas aussi ministre d'État, juste simple ministre. Est-ce que déjà, il n'y a pas quelque chose
non,
qui...
Non, peut-être à ce niveau... L'analyse personnelle que j'ai à faire de la chose, peut-être que M. Fort Nyasingbé voudrait peut-être la cacher un peu, à ne pas trop l'exposer, en la nommant peut-être ministre d'État. Mais comme vous l'avez dit, si il fallait le faire, elle a quand même occupé un poste, c'est-à-dire que...
Deuxième personnalité de l'État. Du pays, de la République.
Voilà, on ne pouvait pas la laisser comme ça, elle pouvait quand même être ministre d'État, parce qu'elle a remplacé quand même un ministre d'État, qui est aujourd'hui président de l'Assemblée nationale. Et comme c'est la même chaise qu'elle va occuper, moi je crois qu'il faudrait quand même la nommer. Mais l'analyse personnelle que j'ai faite, peut-être que je peux me tromper, je me suis dit que peut-être Fort Nyasingbé veut la cacher en notant le ministère d'État, en la nommant peut-être ministre simple de l'urbanisme.
D'accord.
Donc voilà moi les remarques que je voulais faire par rapport à ce gouvernement. Reconnaître que il y a quand même des postes qu'il fallait quand même essayer de retoucher. Et autre aspect pour m'arrêter,
oui.
C'est quand Uriel disait qu'on a rattaché le ministère de la culture, c'est ça ?
Au
ministère de la communication.
De la communication.
Pascal, vous savez, la vitrine d'un pays, c'est la culture. Hein. C'est la culture. Moi, je ne vois pas pourquoi on va dissoudre complètement et dire qu'on va former un haut commissariat au tourisme et à pour je crois que c'est
le tourisme et
la culture, vous voyez. Donc je crois que la vitrine d'un pays, quoi qu'on dise, c'est la culture. Madame Kuigan est tellement occupée à la communication pour qu'on lui ajoute encore le ministère de la culture.
D'accord. Qu'est-ce que j'ai... Ok, merci beaucoup Jacques. Gosson,
juste pour dire que je suis heureux des propos de Jacques, en ce sens que en même temps qu'il dit que notre chef d'État est souverain, il trouve quand même des critiques. Et ça me ravit. Parlant de...
C'est aussi ça l'analyse, non?
Bien sûr. Parlant par exemple du Haut Commissariat au Tourisme, je ne sais pas si toi tu peux en avoir souvenance. Moi, parce que mon père a été à ce poste. Le Togo a connu un Haut Commissariat au Tourisme par le passé. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que on le conjugue au passé et maintenant on veut le réactualiser? Il y avait un haut commissariat au tourisme par le passé. Donc c'est pour dire que notre chef d'État a beau avoir cette souveraineté de nommer des gens, nous en tant qu'acteurs de l'information, nous avons le devoir de porter des critiques quand nous estimons que on aurait pu faire ça. Parlant par exemple de Mme Tchégan, moi mon analyse personnelle c'est, en attendant la mise en place du Sénat, ne m'en demande pas plus.
D'accord, ok, ouais. c'est compris. Alors, c'est vrai que quand on prend le casting, hein, par rapport même d'ailleurs à ce gouvernement, est-ce que le casting a été mal fait? Quand on écoute Jacques par rapport même à ses analyses, tout de suite, est-ce que le casting à la base a été mal fait? Mais on comprend également que quand on prend quelqu'un comme Joseph Kwame Gumado, il se sent bien également dans son domaine.
Non, vous savez, tout à l'heure, je n'ai pas pu comprendre deux personnes. C'est Godson et Jacques. Je ne les ai pas du tout compris. Moi, je ne sais pas comment vous percevez la fonction du ministre, la fonction du premier ministre, la fonction du président de l'Assemblée nationale. En réalité, ce sont des gestionnaires de projets. On considère ce qu'ils font comme il est arrivé pour gérer tel. Il finit, il part. C'est un pape pour partir en transportant son statut. C'est pas parce que quelqu'un... Avant, je le pensais ainsi, hein, mais j'ai évolué dans mes mentalités. C'est pas parce que tu as été président de l'Assemblée nationale qu'à la sortie, tu dois maintenir ton statut de président de l'Assemblée nationale jusqu'à ta mort. Tu peux être président de l'Assemblée nationale et après devenir président de l'Université de Lomé. Pourquoi pas?
Le plus important,
parce que
c'est de servir.
Le plus important, comme il le dit, là où on te trouve utile, tu vas pour rendre service. C'est ça, le service rendu à la nation. Mais si, en devenant Premier ministre, on doit mourir avec ses statuts, ça veut dire que le subalterne mourra dans son statut. On peut être président de l'Assemblée nationale après devenir directeur d'un collège.
Oui, mais justement, est-ce que là, c'est une promotion ou bien c'est plutôt...
Pourquoi voulez-vous que ceux qui ont occupé de hautes fonctions continuent de les occuper jusqu'à leur mort? Ça veut dire que toi et moi, nous allons être là où nous sommes jusqu'à notre mort.
Non,
c'est une erreur grave. Ouais. On doit l'éviter à tout prix. On doit l'éviter parce que c'est, on a comme l'impression que c'est ancré dans nos mentalités que tel est ici... Soit il grandit, soit il demeure là-bas. Mais et les autres pour qui vous financez les études à coût des milliards? Vous voulez qu'ils deviennent quoi? Qu'ils disparaissent du pays ou bien qu'ils reviennent servir ici? Mais c'est un peu grave.
Ok, d'accord.
Ouais, sur cet aspect, il faut juste comprendre un sens, le sens du devoir de servir. Ils sont nommés pour servir. La promotion, je ne sais pas comment, pourquoi tout le monde parle de promotion, est-ce que c'est une promotion que la personne a reçue, le ministre a reçu, la personnalité a reçu? Non, c'est savoir servir. Du moment où, à votre poste, en tant que ministre, que vous soyez ministre d'État, que vous soyez président de l'Assemblée nationale, du moment où vous contribuez à servir la vision d'un peuple épanoui, d'un peuple en paix, d'un peuple démocratique ou d'une nation démocratique, vous faites votre travail. Vouloir tout le temps mettre donc toute nomination dans ce questionnement de promotion, je pense que c'est nous-mêmes qui contribuons donc à maintenir donc ces personnalités à leur poste. Parce que quand on dit par exemple, on a nommé le ministre Yark, le général Yark, ministre, et les gens s'étonnent, ministre de la transhumance, il est ministre d'État, ministre de la transhumance, les gens s'étonnent. Pourquoi s'étonner? Ce qui reste important, c'est qu'il participera ou contribuera à ce que la vision qui a été définie soit effective et qu'il contribue ainsi à l'épanouissement des Togolais. Nous faisons un débat sur la promotion au lieu de faire un débat sur les résultats que les personnes là peuvent produire.
Élie, en plus,
mais par contre,
on te nomme, tu n'es pas obligé de dire oui. Oui. Parce que tu sais là où on veut te nommer. Si ce poste ne cadre pas avec tes principes, le chef de l'État a beau dire que c'est sur toi que ces idées ont été posées.
Les gens étaient nommés. Là aussi, il y a un cabinet, c'est-à-dire il y a une équipe technique qui travaille et que vous êtes là pour diriger ou conduire même
tout ce travail. Tout à fait. Au cas où tu n'es pas d'accord, mais ce n'est pas parce que tu vas dire à ton président que non, je décline cette nomination qu'on va te pourchasser.
D'accord. Non, je pense qu'avant la nomination, très rapidement, il y a eu une consultation.
C'est ça.
On n'appelle pas quelqu'un pour lui imposer quelque chose que ce soit. Je voulais dire ceci. Par contre, au-delà de tout ce que nous sommes en train de dire, moi, à mon niveau, ce qui pose problème, c'est des nominations où un ministre a un niveau inférieur à ses gouvernants. Mmh. On nomme un docteur en sciences, en quoi, en sociologie, en tout. Il atterrit dans un cabinet ministériel où son directeur de cabinet est professeur titulaire, ou même, bon, voyez mon regard, où beaucoup de ceux qui l'entourent sont des professeurs.
C'est un complexe.
Voilà. Non, on a des cas dans ce nouveau gouvernement de transition. C'est, à mon niveau, c'est là que le problème se pose. Comment ça se gère? Voilà. Quoi qu'on dise, on peut tout me dire, il y aura problème, il y aura un complexe. Tu peux faire des propositions. On te dira que, monsieur le ministre, si vous aviez été avec nous lorsqu'on étudiait tel cours pour devenir professeur, vous sauriez que ça ne s'applique pas.
Voilà. Oui, rapidement. Très rapidement, il faut comprendre quelque chose. C'est un complexe. Et je pense que ça fait déjà sur certaines plateformes de réseaux sociaux où on parle du ministre Kankan Malik qui est ministre de l'enseignement supérieur aujourd'hui, qui va être donc à la tête des universités du Togo. Le complexe, c'est que c'est quand on pense qu'on a un niveau supérieur, on est professeur agrégé, on est maître assistant, et qu'on a quelqu'un qui n'a pas ce niveau-là et qui est ministre, je pense que les gens s'étonnent, les gens se posent des questions, mais est-ce que cela devait être le cas? Le plus important, c'est une question de collaboration, parce que le ministre en question ne vient pas vous dicter ce que vous avez à faire, vous avez à travailler dans une synergie. Dans une mutualisation des efforts, mutualisation des idées pour que les résultats puissent être atteints. Là, nous faisons un débat de complexe. C'est comme si aujourd'hui, je suis journaliste avec un niveau master et un doctorant journaliste arrive chez moi, je suis directeur de ma radio et il pense que je ne suis pas en droit d'être son supérieur. C'est faux. Laissons, les Africains font trop de discours sur les diplômes. C'est ça qui complexifie très souvent le travail que nous faisons. Quand vous allez, par exemple, dans les gouvernements occidentaux, mais on ne parle pas des diplômes, il parle de ce que vous allez à produire, vos compétences, vont au-delà des diplômes.
D'accord, nous devons aller vraiment sur à ce lieu. Oui, Jacques.
Non, au fait, quand on parle des postes et des compétences, on n'a jamais dit que quelqu'un n'est pas compétent à son poste. Pas du tout. Vous verrez que vous prenez quelqu'un comme Kankan Malik au niveau de
l'enseignement supérieur
et de la recherche. Il l'a dit. C'est-à-dire que, quels sont ceux qui composent le cabinet? Ceux qui font souvent le travail. Mm-hmm. Le ministre, lui, autre, il vient en complément. Donc, M. Kankan Malik sera à l'aise en travaillant avec les universitaires, les docteurs, les professeurs. Je ne pense pas que le problème va se poser. Mais ce que nous disons, souvent, on nomme certains, mais quand ils vont à ces postes, vous sentez que les personnes ne se retrouvent pas. C'est ce qu'on voulait dire au fait. C'est pas que les personnes ne sont pas compétentes par rapport à ces postes-là. Mais vous verrez certains, quand ils vont à des postes, ils se posent des questions pourquoi ils sont là. Vous voyez, au fait, c'est ça. Ce qui m'a réjoui dans la formation de ce gouvernement, c'est le poste du ministère de je crois, c'est la transhumance.
Du
général Yard. C'est vraiment un poste stratégique que le président Faure Gnassingbé vient de créer. Pour ceux qui ont la chance de se promener un peu sur toute l'étendue du territoire, vous allez voir que c'est un problème récurrent que nos populations soulevaient tout le temps par rapport à ces bœufs qui détruisent souvent les cultures et tout. Je crois que c'est une bonne chose, le fait de créer effectivement ce poste-là et de mettre le général Yark à ce poste. Parce que, disons, c'est quelqu'un qui a fait la sécurité, qui connaît un peu, comment on appelle les composantes, effectivement, de ceux qui font cette transhumance-là. Parce que quoi qu'on dise, vous savez, le problème récurrent aujourd'hui chez nous, c'est ce problème-là. C'est le problème des bœufs et autres-là qui créent des problèmes. Donc je crois que en mettant le général Yark à ce poste, et également à ce ministère que le président Faure Gnassingbé vient de créer, va susciter effectivement l'apaisement au sein effectivement de ces paysans,
parce que
vraiment c'était vraiment un sérieux problème.
D'accord, merci beaucoup Jacques Chekoufré. Nous allons aborder un autre aspect de nomination, c'est bien les gouverneurs. Vous savez que le président de la République a nommé les gouverneurs et, sur les 5, nous connaissons déjà les 4, hein, 4 gouverneurs. Il y a Afo Atiadezi.
Nous connaissons 5.
Sur les 6, justement, sur les 6, nous connaissons 5, bien sûr. Il y a Afo Atiadezi, hein, qui est nommé gouverneur de la région des savanes. Il y a le général de brigade Komlan Aditaou, qui est chargé de la région de la Kara. Le général de brigade Dadja Maganawe va s'occuper alors de la région des plateaux, alors que Tairou Bagueg, va diriger la région maritime. Zouriatou Kassa Traoré est porté à la tête alors du district autonome du Grand Lomé. Et pour ce qui concerne la région, alors de la région centrale, son gouverneur n'est pas encore nommé. Alors, Gosson, déjà, comment vous analysez alors cette information?
D'abord, une fois encore, sur le plan financier,
Ensuite, sur le fait que ce ne sont pas des gouverneurs qui ont été élus par les conseillers régionaux. On les a nommés à la tête de conseillers qui ont été élus. C'est vrai, on nous dira que c'est peut-être inscrit dans la Constitution.
Oui, oui,
mais bon, aujourd'hui, à quel pourcentage est-ce que notre pays respecte cette loi fondamentale, Pascal? À quel pourcentage? Si, par exemple, on avait appris la dernière fois que notre président avait nommé 50 ministres pour former le gouvernement, je sais qu'il y en aura qui vont le comprendre. Tout comme s'il avait décidé de nommer 10 ministres, il y en aura toujours qui vont le comprendre. Mais souffrez que quand le nombre dépasse, pour moi personnellement, 20, que je sois à l'aise à dire qu'on n'a pas besoin de ce pléthore. Donc pour les gouverneurs, c'est sur d'abord le plan financier ajouté au conseil régional, ce dont j'ai déjà parlé. Et ensuite, pourquoi est-ce que on n'a pas nommé tous les 6? Parce que le Togo ne compte pas 5 régions, c'est plutôt 6. Est-ce que c'est conforme à la Constitution? Une fois encore, notre président nommera quand il le voudra, ou alors il ne nommera pas le 6e, mais on aura beau nous énerver, on ne pourra rien faire, comme dirait l'autre.
D'accord. Élie, finalement, c'est le renforcement de la décentralisation qui continue.
Oui, le renforcement de la décentralisation, ce qui m'a plu dans la nomination de ces gouverneurs, c'est qu'il n'y a pas eu de considération ethnique dans la chose. Il n'y a pas eu de considération ethnique. Vous voyez par exemple le ministre Acha Adeji qui va dans la région des savanes et plutôt il est de la région centrale.
Oui.
Vous avez le monsieur Kassa Traoré, madame Kassa Traoré plutôt, qui est dans la région, qui est dans le Grand Lomé. Alors, il y a de ces aspects que je trouve pertinents, contribuant ainsi à l'intégration ethnique, à l'apaisement, à l'unité nationale. Parce que très souvent, quand vous écoutez les gens, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les gens sont récalcitrants un peu quand on nomme quelqu'un qui n'est pas de leur milieu, ils s'étonnent. Alors qu'on doit aller au-delà de ces réflexions,
puisque nous sommes tous
de cette mentalité. Et j'avoue que ça devait être fait depuis longtemps pour permettre à ce que, je disais très souvent que depuis 1990, si l'opposition togolaise dans son ensemble ou la classe politique togolaise avait décidé de lancer le Togo sur le plan de la décentralisation après la conférence nationale, on serait déjà très loin. On a pris du temps à rentrer dans le format de la décentralisation effective. Aujourd'hui, il faut que ça aille beaucoup plus vite et on aimerait que le sixième gouverneur soit connu très rapidement. Le problème que pose
Gosson,
je pense que c'est important de le relever parce que à la tête des élus, des gens qui sont nommés, c'est bien vrai, c'est la loi qui l'a défini ainsi, mais ça pose quand même un petit problème, un petit souci.
Souci de quoi?
Souci de légitimité. De légitimité des gouverneurs à exercer sur des élus à exercer sur leur autorité. À exercer sur les élus leur autorité.
Justement.
Et peut-être qu'à l'avenir, on pourrait trouver une solution à ça pour que le gouverneur soit également élu au sein des élus. Ça aiderait à muer, mettre l'accent sur la légitimité qui est un point essentiel dans l'autorité, dans l'usage de l'autorité de l'État. La légitimité est un point essentiel.
D'accord. Uriel, c'est vrai que quand on a appris cette nomination à l'ordre des gouverneurs, beaucoup de gens alors se posent la question, et les préfets, ils deviennent quoi?
Non, attendez. Le gouverneur, c'est au plan régional. Le préfet, c'est au plan préfectoral.
Tout à fait.
Oui, dans l'ancien système existait les préfets, tout comme dans le nouveau système, ils seront là. Il n'y a pas d'obstacle au règne du préfet par rapport à un gouverneur qui est là pour présider le conseil régional. Non, il n'y a pas d'obstacle. Et jusqu'ici, la loi a été claire par rapport au gouverneur et la loi n'a pas dit qu'il faut qu'on nomme, qu'il faut que le gouverneur soit un élu régional. Non, la loi ne l'a pas dit. Donc, jusqu'ici, tous ceux qui ont été nommés C'est logique, c'est normal.
C'est la loi.
Ça respecte
la
loi. Moi, je me dis, c'est par rapport à leur profil, à leur passé, tout ce qu'ils ont eu à faire, et qu'ils pourront efficacement contribuer, puisque nous sommes dans la logique du développement décentralisé. Je pense qu'ils pourront jouer valablement leur rôle. Élie parlait tout à l'heure d'une dimension qui n'est pas aussi négligeable, c'est-à-dire que ces considérations ethnicistes qui ont disparu, vous trouvez quelqu'un qui est de la région centrale qui va gouverner la région des savanes, quelqu'un qui est du sud va gouverner la région de l'Akara, quelqu'un qui est de la région de l'Akara revient dans Grand Lomé ou Maritime. C'est chose très intéressante. Vous voyez par exemple le général de brigade, celui que nous avons mis à la manchette de notre journal, de notre parution d'aujourd'hui, le général de brigade Dadia Maganawe, qui va gouverner la région des plateaux avec toute l'expertise dont on connaît de l'homme, qui a été préfet, qui a été secrétaire général du ministère de la Défense, et des anciens combattants, qui a été chef d'état-major général des FAT. Avec tout ce qu'on connaît de lui, nous pensons que vraiment et son expertise est vraiment attendue dans cette région pour contribuer, pour aider le conseil régional à jouer pleinement leur rôle. Et puisqu'on parle, on va se partager ensemble sur le rôle d'un gouverneur. Vous allez voir que c'est bien clair, c'est bien défini. Il n'atterrit pas pour faire la loi. Il n'atterrit pas pour dire ce qu'il dit dans sa famille. Non, son rôle est bien défini et il rend compte périodiquement. Donc,
ministre de l'administration territoriale.
Oui, tout à fait. Moi, je ne trouve même pas un problème là-dedans. Peut-être que si le temps nous permettait. À ce sujet, peut-être c'est le ministre de l'Aménagement qui revient maintenant vraiment intervenir dans cette formule de décentralisation et qui va devenir même le patron de son ancien patron. Donc, c'est ça qui me paraît plus intéressant. Le reste, ça va marcher.
Jacques, oui, quelle est votre analyse alors de ces nominations?
Bon, vous allez m'excuser, mais moi, je ne suis pas d'accord avec ces nominations.
Ah bon?
Oui. Vous savez pourquoi?
Non.
On dit souvent qu'on est à l'aise lorsque on se comprend. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je voulais dire. Vous prenez quelqu'un comme M. Acha. Acha, parmi les Moba, si on veut lui cacher des secrets, on va à Moba. Il serait là bleu, il ne va rien comprendre. Vous prenez quelqu'un comme Agitou qui va à Kara. Si on veut lui cacher un secret, on parle de Kabier. Il ne peut pas comprendre. Mais plutôt, on parle des gouverneurs. On parle des gouverneurs.
C'est vrai que... des gens qui doivent maîtriser.
Bien sûr. Ça dit que vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui ne maîtrise pas la langue de la localité pour lui placer à la tête des gens. Ce n'est pas possible. Ça, il faut qu'on se dise la vérité.
Non, je ne suis pas d'accord.
Non, ça, vous ne pouvez pas être d'accord avec moi, mais c'est comme ça.
Justement, c'est votre
avis. Ça dit que les gens, chacun est fier de son origine, de sa légitimité. C'est parce que vous comprenez. Vous prenez bon, je ne suis pas en train de faire la xénophobie, mais ce que je dis, quand on parle d'un gouverneur, il faudrait que quelqu'un qui maîtrise effectivement les localités, les coutumes, les traditions de sa localité, pour pouvoir effectivement être à l'aise, de pouvoir défendre ce que ces populations la veulent. Je ne dis pas que M. Akadedi ni Agitou, les autres ne pourront pas le faire. Vous prenez quelqu'un comme M. Bagbier, qu'on met au niveau de la région, je crois que c'est maritime. Allez-y comprendre. Est-ce qu'il comprend l'éveil? Allez-y, fouillez pour voir s'il se parle bien l'éveil. Donc, moi, ce problème-là, comme je l'ai dit, il faudrait quand même mettre les gens ou les populations pourront se sentir à l'aise. Lorsque nous sommes ensemble au niveau du vestibule, ou nous sommes peut-être au niveau, effectivement, du gouvernorat, qu'on puisse effectivement échanger. Donc, moi, si on faisait ça, je ne pense pas qu'on serait là en train de parler de quoi que ce soit.
D'accord.
Moi, si on mettait, par exemple, Bagbieg au niveau des savanes, c'est une bonne chose. On met le général Maganawe au niveau de l'Akara, mais c'est une bonne chose. On met Agitou au niveau des gens des régions maritimes.
Oui.
C'est une bonne chose.
D'accord.
Mais je crois qu'en le faisant comme ça, vous savez, quoi qu'on dise, Pascal, on se connaît dans ce pays. On se connaît. C'est vrai que quand vous prenez même l'histoire, c'est vrai que, comment il s'appelle, M. Afo, Achadegi n'est pas Kotokoli, mais on sait un peu ce qui oppose souvent les Moba et les Kotokoli. Les Mobas n'aiment pas qu'on dise que la suprématie, c'est les Kotokolis. Vous comprenez? Donc, je crois qu'aujourd'hui, donc, il faudrait qu'à la longue, on puisse quand même revoir cet aspect de la loi pour mettre les gens qui pourront effectivement échanger avec leur sujet.
Oui, bah voilà. Oui, Gerson.
Oui. Je sais que les gens ne seront pas d'accord avec moi.
Tout à l'heure, Muriel a fait allusion au passé des gouverneurs. Sans oser le citer, si on va sur Google et on veut revisiter le passé des cinq gouverneurs pour le moment, il en est un qui ne devrait pas pouvoir se regarder dans la glace.
C'est qui?
Finalement, c'est à croire que quand les gens se permettent des largesses dans la gestion de certaines structures et qu'on les en enlève, que les citoyens pensent que, ah, ouf, on s'en est débarrassé, on les voit ressortir, revenir par la fenêtre. Pascal, excuse-moi, mais c'est désolant, ça n'encourage pas la vertu au sein de la jeunesse. Quand on va leur conter l'histoire de telle personne qui aujourd'hui est nommée gouverneur, finalement on se dira, mais est-on en train de promouvoir la médiocrité ou alors l'excellence?
D'accord.
Pour une première fois, je m'oppose radicalement aux avis.
Radicalement, vous dites.
Aux avis précédents.
Déjà.
Franchement, vous savez, ils ne sont pas nommés gouverneurs à vie. Sinon, c'est que les précédents ont voulu faire croire. Ça veut dire que cela s'appliquerait au préfet. Vous savez, lorsqu'on Depuis que moi je suis né,
c'est pas bon.
Vous pouvez vérifier tous les préfets que je connais dans la Bina. C'est l'actuel seul qui est de la Bina. Et tous ceux qui sont passés, ça a marché. Il n'y a jamais eu de conflit, il n'y a jamais eu d'opposition, il n'y a jamais eu. Donc moi je trouve que c'est la compétence. C'est le profil, c'est ce qui peut faire fonctionner.
Personne
n'a dit qu'ils
ne sont pas compétents. Hein.
Alors,
je n'ai pas ça.
Non, je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas compétents. Jusque là, je n'ai même pas appelé le nom de Jacques.
Non, je dis.
Est-ce que Jacques?
Jacques voudrait faire aussi une précision.
Une précision qui ne doit même pas être rattachée.
D'accord, vas-y rapidement, s'il te plaît.
Je prononce comme à la ligne.
Vas-y.
Vous savez, cette histoire-là, le gouverneur travaille avec les conseillers régionaux. Donc, aux conseillers régionaux de travailler avec les populations à la base. Le gouverneur n'est pas obligé de se localiser dans la région où il est gouverneur. Nous sommes d'accord. Donc, aucun problème à mon niveau ne se pose. Aucun problème.
D'accord.
Peut-être qu'une étude scientifique a été faite pour trouver la bonne personne pour placer au bon endroit.
Ok. Et Eli?
Et pour moi, ça crée une certaine impartialité dans l'appréhension de tout ce qui sera lié à son travail.
Merci.
Ça crée une certaine impartialité. Il n'est pas de le gouverneur n'est pas de telle ou famille.
Voilà.
Donc ça crée une certaine impartialité qui lui permet de faire son travail
beaucoup positif.
C'est faux.
Ça ne va pas du tout créer ça. Parce que vous savez, le problème c'est quoi?
Oui, Jacques.
Le problème c'est que c'est des gens qui sont élus. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est des gens qui sont élus au niveau local.
Les conseils.
Vous prenez quelqu'un de quelque part pour venir mettre à la tête de ceux qui ont été élus. Je ne sais pas si vous voyez
c'est
la chose.
Que la loi a prévu.
Vous voyez? Donc, il y a quand même un problème. Il y a un problème. Donc, je dis, si même on devait par exemple nommer ces gens, il faudrait quand même chercher au sein de ceux qui sont élus, même si on devait imposer quelqu'un, chercher ceux qui sont élus à ce niveau-là pour nommer la personne.
D'accord, ok, merci beaucoup. C'est vrai que notre temps est totalement avancé, mais je veux qu'on dise quelque chose alors sur les deux congrès organisés par le NET le samedi dernier. Et aujourd'hui, il y a deux présidents à la tête alors du parti. Il y a d'un côté avec directement, c'est le Ismaël Tanko qui est le président et Jamine qui est aussi le président de l'autre parti. Alors finalement, Gosson, quand on voit le NET nous présenter cet épisode alors de sa crise, c'est décevant ou bien?
Tu parles du NET, le filet de pêche ou alors le filet pour se doucher.
Je ne sais pas trop.
Alors je passe.
Moi, j'avoue que c'est un triste feuilleton auquel nous avons tous assisté. Jerry Tama a eu peut-être le malheur de s'annoncer trop tôt quittant la scène politique togolaise en démissionnant de son parti.
Tout à fait.
Et il doit arriver à assumer cette responsabilité, cet engagement. La parole donnée d'un militaire reste la parole donnée d'un militaire. Et il sait très bien de quoi je parle. Alors, ce qui me paraît, ou qui me conforte un peu dans l'analyse du fait que le camp Jerry ne l'emportera pas, c'est que hier à la TVT, nous avons vu les images du congrès de Jules Amim. Et pourtant, on n'a pas vu le congrès de Jerry. Cela voudrait dire, dans mon entendement, que
Ce qui est officiel,
c'est celui de Jules Amim. Et maintenant, Jerry pourrait peut-être se plaindre au tribunal, à la justice, pour que la justice puisse les départager.
D'accord, ok. Oui, Uriel?
Non, moi, je continuerai par vous surprendre. Mm-hmm. Bon, si tous les Togolais croient en ces scénarios, je serai le seul à ne pas croire.
C'est-à-dire?
Moi, je considère tout juste que c'est un scénario monté de toutes pièces.
Ah bon?
Oui, bien sûr. Vous croyez en ça? Qu'il y a eu un congrès de démission de tel Jerry Tama, Jules Amim, tout ça là. Vous croyez en ça?
Non. Mais à quelle fin? Si c'est monté alors de toute pièce, c'est à quelle fin?
Non, la fin, les auteurs du scénario même connaissent la fin. Moi, je ne crois pas en ça. C'est trop facile et flagrant pour conquérir ma foi. Non, c'est pas possible.
D'accord.
Non, okay, c'est pas possible.
Je ne sais pas si vous croyez.
Non, l'essentiel est que, vous savez, au Togo, actuellement, le cocotier est en train d'être secoué. Et les cocotiers qui ne pourront pas résister vont tomber. Donc, je crois que aujourd'hui, c'est un plan qui est mis en marche. Ceux qui seront solides vont rester à la branche, ceux seront attachés à la branche. Mais ceux qui ne seront pas solides vont tomber. Donc, je crois que c'est quelque chose qui est déclenché. Attendons voir ceux qui vont résister à ce vent-là. Et on verra clair sur la scène politique quels sont ces partis-là qui pourront vraiment faire la chose et aider effectivement le peuple togolais.
Non, mais est-ce que ce n'est pas décevant que les deux camps, les deux partis, alors se retrouvent finalement à la justice?
Mais regardez, Pascal, qu'est-ce qui te dérange dans ça? Quelqu'un qui allait demander la main d'une femme, tu lui poses la question, est-ce qu'il a vu son beau-père? Comme s'il n'a pas vu le beau, comment il a pu prendre la femme? Mais laissez-le. Il n'y a pas de souci, ça va de régler le problème.
D'accord, merci.
On verra à qui appartient la femme.
D'accord, merci beaucoup.
Et qui est le beau-père.
Voilà, merci beaucoup. Notre temps aussi est déjà avancé. Nous allons maintenant écouter aussi nos compatriotes qui s'impatientent à entrer aussi en ligne. Mais nous allons faire un clin d'œil à nos annonceurs avant.
93.5. Canal FM.
Nous revenons en studio pour cette émission Club de la Presse de ce lundi. Et maintenant, nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75. C'est les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse. Réagissez sur des sujets débattus ici entre confrères journalistes. 90 86 35 35 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse. Allô?
Oui, allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va bien.
Votre nom c'est?
C'est Komi.
Komi, vous nous appelez de quel quartier?
Depuis Amadaroumi.
Amadaroumi, allez-y.
Je salue les confrères qui sont là-bas. Bon, moi aussi je veux apporter quelque chose à votre débat.
D'accord, allez-y.
Pour le cas de, comment appelle-t-on, nomination de gouverneur. Même si c'est la loi qui l'a prévu ainsi, à mon avis, il faut revoir cette loi-là. Donc, je reviens sur l'opinion de Jacques. Il faut revoir donc cette loi, parce que ça ne va pas nous encourager, nous avantager. Et dans un passé récent au Togo, quand nous prenons les préfets, j'ai l'impression qu'on nomme plus les préfets, on ne prend pas des gens en dehors donc des préfectures. On prend toujours les fils des préfectures et les nommer préfets. Et parce qu'à un moment donné, on a constaté qu'il y a des problèmes entre les préfets et les leur sujet. Et donc, pour régler, pour donner, je dirais, c'est pas quoi, le bon vivre entre, dans la préfecture,
la cohésion sociale.
Le président a pris la décision de chercher des fils donc, de cette préfecture-là. Alors, c'est ce qu'on doit faire donc, au niveau des gouverneurs. Et deuxième cas qui s'offre aussi, est que si on ne les prend pas au niveau des préfectures, on n'a qu'à les prendre au niveau des élus, des conseillers régionaux. C'est ce que je voulais apporter.
Merci beaucoup, Komi, pour justement votre intervention. Allô?
Oh, allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour, Pascal.
Oui, comment vous allez?
Je vais bien.
Votre nom, ça va aussi. Votre nom, c'est...
C'est Monsieur Abioké.
Monsieur Abioké.
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 Oui.
Ok, allez-y.
Oui, je salue le plateau.
Le plateau aussi vous salue.
Je salue Monsieur Jacques. Merci pour son développement. Vous savez, en effet, on dit amen, on a même si un bon n'a jamais. Je ne sais pas si vous comprenez, Monsieur Pascal.
Oui, je vous comprends.
Oui. Pourquoi je dis cela? Demandez Monsieur Jacques. C'est pourquoi je lui remercie très. Je sais comment lui remercier, quoi. Pour son développement qu'il a fait aujourd'hui, là, je suis très fier de lui. Vous savez, je suis un ami du chef de l'État, Monsieur Foy, il soit signaturé. Depuis que j'ai écrit des courriers, plusieurs fois il m'a reçu, par ses propres collaborateurs, je n'ai eu aucune réponse. Tout dernièrement, ce que je voudrais vous dire, ce 26 avril 2024, le chef de l'État, lorsqu'il est venu allumer le feu en partant sur le palais congrès, il m'a vu, m'a serré la main, il s'est arrêté durant 3 minutes, il veut m'écouter. Alors, il y avait un brouhaha, je n'ai pas pu lui parler de mon besoin. Et c'est malheureusement, c'est l'un de ces gardes-côtes qui est venu me ramasser et il est parti. Bon, demandez à savoir si c'est que j'avais un nanyanga de Plita qui est ministre. Que je suis allé le voir, c'est ce problème. Est-ce que mon problème n'est pas encore résolu? Ça serait résolu depuis. C'est pourquoi je vous dis, un ami, ou bien quelqu'un de ta famille, ou bien quelqu'un de ton village, qui est ministre, ou bien qui est autorité compétent, ce n'est pas que le chef de l'État, non, ils ne sont pas compétents. Ils sont compétents. Mais du fait que la personne ne se connaît pas à tant que tel, c'est difficile pour eux de t'aider. C'est pour cela que M. Jacques a fait ce développement. Je suis très fier de lui. Que Dieu le bénisse.
D'accord.
Parce que ce n'est pas qu'il est contre des autorités comme ça. Non, il n'est pas contre. Ils sont compétents, mais il faut quelqu'un de ta localité. Pour ça, si tu vas chez lui avec des problèmes, la personne pourrait prendre ton problème à peur. Et celui qui va t'aider, pourquoi?
D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Abioké, pour votre intervention. Allô? Oui, bonjour.
Bonjour, c'est Abdel.
Oui, Abdel. Mais ça fait longtemps. Hein.
Oui, non, moi je n'interviens pas de façon ponctuelle, mais bon, en tout cas,
d'accord.
J'essaie de rentrer en ligne quand même.
Okay.
Il est très difficile de rentrer.
Justement, allez-y maintenant.
Moi, au contraire, je ne suis pas d'avis avec Jacques. Hein? Je pense que la manière dont le gouvernement a procédé est la meilleure. Vous savez, lorsqu'on nomme comme gouverneur un fils du milieu, il y a des intérêts ethniques et familiaux qui rentrent en jeu, d'accord, et qui ne permettent pas la bonne gouvernance, la bonne gestion des dossiers. Parce qu'on est un peu affilié à cette famille, on est de cette ethnie, forcément quand les gens de mon ethnie arrivent. Mais quand on nomme un étranger, je vous assure que il est départagé de toutes ses considérations et essaye de gérer bien ses dossiers. C'est comme ça. Moi, j'ai plus apprécié la manière dont ça a été fait par le gouvernement. C'est vrai que chacun avait son avis et c'est ça la démocratie, d'accord?
D'accord.
On ne peut pas avoir les avis, les mêmes avis. Voilà, c'est les avis contraires qui bâtissent la cité.
D'accord. Merci beaucoup, Abdel. 90 86 35 35 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse lors de ce lundi. Réagissez sur des sujets débattus ici au Club de la Presse. Allô?
Allô?
Oui, bonjour, madame ici.
Bonjour. Regardez ce dont vous débattez là-bas. Vous essayez de discuter des forfaitures, des trucs hors normes, quoi. Et puis voilà. Donc, nous, on n'a pas droit.
Comment ça, madame ici? Forfaitures hors normes, oui, mais.
Tout ce dont vous débattez depuis qu'on a nommé tel ministre. Mais le président est un bouge ou pas? Ou quoi? Non, on a une conscience qui nous dit 5 ans de passer la main. Et comment vous pouvez cautionner des trucs comme ça?
Et puis, mais madame ici, oui, madame ici, nous n'analysons que les faits, ce qui, justement, les faits.
Tout ça, là, ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas que le régime doit être là à vie et puis faire imploser les partis politiques, en tirer dedans et tout. Non. Est-ce que vous dites là que Gomado travaille? Il a fait quoi? Gomado a fait quoi? Quelle route a bain? Et est-ce que ça justifie?
Mais nous n'avons rien dit. Nous n'avons rien dit de cela ici au Club de la Presse. Hein? Tout de suite, nous n'avons rien dit de cela. Je n'ai écouté quand même personne dire.
Est-ce que ça disculpe ça? Hein? C'est pas normal. On a dit d'alterner tous les 5 ans. Si on alternait, il n'y aurait pas eu tous ces trucs-là. Le pays serait développé,
D'accord. Madame ici, merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Allô, bonjour.
Oui, c'est Monsieur Waris.
Monsieur Waris, comment vous allez? Depuis Azan, je pense bien.
Bonjour. Allô.
Oui, allez-y. Allô.
C'est Monsieur Waris.
Waris, oui, je vous écoute.
Depuis Azan.
Oui. Allez-y.
Allô.
Ah, mais décidément, il n'a pas de retour. On prend notre auditeur. 90 86 35 35 91 36 63 75. C'est sur ces deux numéros que vous pouvez réagir au Club de la Presse. Je vous prierai d'avoir un poste récepteur à côté pour mieux avoir le retour de ce que nous disons. 90 86 35 35 91 36 63 75. C'est sur ces deux numéros que vous pouvez réagir au Club de la Presse. Allô? Allô, bonjour.
Allô.
Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Oui, comment vous allez?
Je vais bien, monsieur Diama, depuis Agwezongo.
Monsieur Diama, depuis Agwezongo, allez-y.
Oui, j'ai toujours été d'accord avec monsieur Diakouti, mais cette fois-ci, j'ai dit non. Alors, s'il parle des fils de milieu pour être gouverneur, je lui dirais qu'il s'est trompé un tout peu, ou alors il a ignoré certains aspects. Lorsque vous prenez le préfet de Tchaoudio, il est de la savane. Il est là-bas, il n'a pas de problème. Vous prenez le préfet de Tchamba, il est de la savane. Vous prenez celui de Mango, il est bassard, il est de la région de la Kara. Ça marche. Alors, si vous prenez un fils du milieu, c'est là où il y aura des problèmes parce qu'il y a des intérêts, comme quelqu'un venait de le dire. Donc, moi, je pense que ce que le chef de l'État ou alors le gouvernement a fait, c'est bien réfléchi. Hein? Prenez le préfet de Pendial Ouest. Il est de la Kéran, Diakouti, de la région de Savane, il le sait. Donc je crois que cette fois-ci, il a tapé à côté. Merci.
Merci beaucoup, M. Diamant, pour votre intervention. Michel, nous avons encore quelques minutes pour recevoir le dernier auditeur. Allô? Allô, bonjour. Allô? Mais décidément, il n'a pas de retour, Michel. Et donc, nous allons recevoir un autre auditeur. 90 86 35 35 91 36 63 75. Nous attendons le dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission Club de la Presse de ce lundi. 90 86 35 35. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Oui, c'est M. Abdelkiss qui revient. M. Pascal.
Oui, oui.
Où sera-t-il du feu? Monsieur Jacques a passé à côté là. Et je vous demande un grand pardon. Demandez à Monsieur Jacques, ça fait combien de fois que je suis allé soumettre mon problème à son fils, mon fils à son papa, que lui-même il est parti à la présence. Il a vu mon nom et mon pronom à la présence, que le chef de l'État a envoyé l'un de ses gardes pour venir prendre mon bureau pour l'amener. Est-ce qu'on m'a appelé? Si c'est que j'avais quelqu'un, comment un anéant de plus tard qui est à la présence, Est-ce que mon problème n'est pas d'accord aujourd'hui?
D'accord, monsieur Bioké, merci. Merci pour votre intervention. Chers confrères, nous revenons en studio pour faire un dernier tour de table et clôturer l'émission. Jacques?
Bon, je crois que pour ce matin, Uriel
et Élie?
Élie et Gosson ne sont pas d'accord avec moi, avec les auditeurs. Mais moi, je réitère ce que ma pensée.
C'est ce qui fait même débat.
Voilà. Mais si les gens parlent des préfets, je ne sais pas si vous comprenez.
Oui.
Les préfets par rapport au gouverneur, c'est autre chose. C'est-à-dire que vous serez à la tête de ceux qui sont élus. Les préfets sont nommés. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc c'est un peu différent.
Les gouverneurs aussi sont nommés.
Oui, c'est ce que j'ai dit. Attention, j'ai dit, vous allez venir gérer ceux qui sont élus. C'est différent. Les préfets sont nommés pour venir gérer, disons, voilà. Mais les conseils régionaux là sont effectivement élus. Et on met à leur tête ceux qui ne sont pas élus. C'est ce que je voulais dire.
D'accord.
Et moi, j'ai dit souvent, quand vous voulez cacher quelque chose à quelqu'un, on va dans sa langue maternelle. Ce que vous envoyez au niveau effectivement de est-ce qu'ils comprennent les langues? C'est ça, moi, mon problème. C'est le développement donc, que je fais. Comme vous l'avez dit, nous sommes en démocratie. Uriel peut être d'accord avec moi. Peut-être Gosson ne serait pas d'accord avec moi. C'est la démocratie.
Tout à fait.
Donc, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas là en tant que xénophobe pour dire non, je ne suis pas d'accord que Acha aille dans la région des savannes ou que Maganaoué aille dans la région des plateaux. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est une analyse personnelle. Que les gens soient d'accord avec moi ou pas, ça, c'est mon analyse.
D'accord. Merci, Uriel.
Donc, je maintiens ma position. Vous savez, les gouverneurs, ils iront pour coordonner le travail des conseillers régionaux. Ils n'ont rien à foutre parce que leur langue officielle, c'est le français. S'il y a un travail à faire à la base, et les conseillers régionaux se chargeront de le faire. Autre raison, vous savez, les gens crient partout, il faut relever le commandement. Il faut qu'on soit courageux de le dire pour étayer nos arguments, de relever le commandement au niveau de la région des savanes parce que celui qui était là-bas n'était pas un fils du milieu. Ça a été fait ou pas? Est-ce que ça a été fait ou pas? Mais ça dit que c'est l'efficacité, c'est le profil, à mon avis. Celui qui peut gérer une situation, je pense que le premier responsable et son entourage ne blaguent pas sur la question. Ça, ils ont étudié les dossiers, ils ont étudié les situations, parce que c'est quelque chose de très crucial avant de les nommer. Moi, c'est mon avis personnel et je maintiens que c'est plus efficace de procéder ainsi tel qu'ils l'ont fait. C'est plus efficace. Les gens travailleront dans l'impartialité, dans l'objectivité et chercheront plutôt les résultats.
D'accord. Élie?
Oui, il faut dire que c'est des vieilles et tristes et dures habitudes historico-culturelles qui souvent opposent des régions à d'autres régions. Jacques a évoqué celle des Kotokoliers, des Moba, mais je pense que si nous voulons construire un État,
une nation
unie, prospère, et où il y a une certaine cohésion sociale entre tous les fils et toutes les filles de ce pays, on doit dépasser ces limites d'ordre ethnique ou ethnocentriste pour pouvoir consolider le travail à faire ensemble. Parce que ces éléments ethnocentristes ont eu de par le passé des incidents très négatifs sur le fonctionnement ou le travail des nommés préfets comme gouverneurs. Et aujourd'hui, il faut qu'on dépasse et avoir le courage de nommer des personnes qui ne sont pas issues des régions, ne sont pas autochtones de ces régions, à la tête de régions. Je pense que c'est une évolution dans les pratiques politiques au Togo.
D'accord. Et Gosson?
Oui. Au-delà de la provenance de ceux qui viennent d'être nommés, mais qui devraient être des élus, moi, je reviens toujours à la question du nerf de la guerre.
L'argent.
Oui.
Le côté financier.
On multiplie les péages. Les citoyens s'acquittent des taxes et impôts. Mais si, au final, c'est pour multiplier le nombre de députés, de conseillers régionaux, de gouverneurs, de sénateurs, attends, à quand la vraie résolution des questions sociales? Personnellement, je suis chagriné parce que j'aurais la baguette magique que les citoyens sentiraient qu'effectivement, ce monsieur nous montre une autre direction. Si j'apprenais que la mobilisation des ressources allait dans le sens du renforcement des structures éducatives, sanitaires, hydrauliques et autres, je serais le premier à applaudir. Mais porter à la hausse les députés, créer des conseils régionaux. Quand on sait qu'en l'état actuel des choses, le gouvernement, c'est monocolore. L'Assemblée nationale, c'est quasiment monocolore. Les conseils régionaux, c'est toujours la même coloration. Finalement, les sénateurs viendront faire quoi? Normalement, c'est quand il y a équilibre, une vraie opposition dans un pays, que l'existence de l'Assemblée nationale et du Sénat trouve son vrai ferment. Mais ici, je vois mal comment cette Assemblée-là va voter une loi, et c'est ce futur Sénat-là qui voudra dire que cette loi doit être relue. Ce ne sera pas possible. Tout ça pour dire que c'est du, dois-je dire, mangeons club pour récompenser. Parce que même s'il faut récompenser, c'est trop.
D'accord.
Et j'ai mal.
D'accord, vous avez mal, ça se comprend. Alors, votre note de fin d'émission, je reste avec vous. Pour votre note de fin d'émission.
Du carton rouge.
Non, mais cette fois-ci, c'est une note, c'est entre 0 et 10.
Pi.
3,14
à qui?
Au
gouvernement.
D'accord. Oui, Jacques.
Non, moi, je n'ai pas de carton. Vous mais je pas voudrais, de notes, une fois encore, inviter la sécurité togolaise à plus de vigilance.
Tout à fait.
Parce que l'enlèvement de M. Houmvi dans ce pays constitue aujourd'hui un caillou dans les chaussures.
Vous le parlez de M. Steve Amouzou.
C'est incompréhensible que des gens viennent opérer sur le territoire national et qu'on prenne le temps de s'attaquer au chef de l'État inutilement, parce que les Béninois se sont dit que Faure Gnassingbé était au courant, mais à la fin, on constate que M. Faure Gnassingbé n'était pas au courant. C'est des individus qui sont venus opérer et qui sont partis d'une façon et qui créent aujourd'hui un problème. Moi, je demande aux forces spéciales également au Togo d'aller sortir Rukia Madougou au Bénin pour prouver aux Béninois que Togolais nous sommes forts aussi.
Ah, d'accord, alors nous reviendrons sur le sujet demain, bien sûr. Oui, Uriel, votre note de fin d'émission, voilà, des notes toujours objectives.
Oui, hein. Note objective. J'attribue 8 sur 10.
À qui?
8 sur 10 à tous les usagers de la route qui apprêtent leur monnaie avant le franchissement des postes de péage.
D'accord, merci, ça se comprend. Alors, oui, Elie.
7 au procureur de la République,
oui,
qui a fait un travail avec l'ensemble des services de renseignement pour avoir une certaine vérité sur l'enlèvement de Steve Amouzou.
Voilà, dit oui. Frère Houmvi.
Oui, c'est louable. Quand vous lisez un peu le communiqué, vous savez que c'est un travail professionnel qui a été fait.
Tout à fait. Nous allons revenir sur le sujet demain. Demain, nous en parlerons. Elie, merci d'être passé dans cette émission. Urel, merci à toi aussi d'être passé. Jacques, merci à toi d'être passé dans cette émission. Gosson, merci d'avoir contribué à ce débat avec ta réflexion. Merci à vous tous qui nous avez suivis, puisque nous sommes à la fin de cette émission. Merci à Michel Tomega qui a assuré la mise en onde. La mise en ligne a été assurée par Jérôme Dakoucha. Je suis Pascal Oussou. Je vous retrouve demain déjà à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.